J'avais une petite question. Pour distinguer la justice originelle de la grâce chrétienne, vous avez dit que dans l'une, il s'agissait d'harmoniser la nature humaine à l'ordre divin, et dans l'autre, de saisir cette même nature et de l'ordonner directement à la béatitude. Pouvez-vous développer en quoi la médiation du Christ rend l'ordre à la béatitude plus direct? Il semble que cet accès plus direct qui explique la bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur est humainement paradoxal. Humainement, dans l'amitié, tout intermédiaire met une distance. Ici, c'est le contraire. L'intermédiaire rend la fin plus proche. Comment préciser cela?
On peut le préciser justement en gardant le point de vue de la finalité. Si je regarde la causalité efficiente, je suis tenté à dire que c'est plus compliqué. Si je regarde au contraire la causalité finale, je vois qu'il y a une finalité plus immédiate qui commande tout. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. La grâce chrétienne implique de fait les sept sacrements. C'est une auréole de la grâce chrétienne. D'impliquer les sept sacrements. Donc, la grâce chrétienne, comme elle doit aller plus loin et comme elle a une exigence surnaturelle plus grande, surtout par rapport à une nature qui est toujours rebelle. Notre nature est fondamentalement rebelle. Et pour cela, Dieu a voulu qu'il y ait les sept sacrements. Vous voyez, ce serait une vision de la théologie des sacrements qu'il ne faudrait surtout pas oublier. Et en théologie mystique, c'est cette vision-là qu'on doit avoir des sacrements. Les sacrements montrent la complexité de la vie chrétienne, la vie surnaturelle chrétienne. Parce que la grâce chrétienne doit arriver à dompter ce rébellion, cette opposition farouche de la nature qui est sanctifiée, de la nature pécheresse. Dieu va dompter par la grâce. Et il y a alors les sept dons du Saint-Esprit, les sept sacrements, qui sont là pour saisir la nature dans tout son développement. Alors, ça fait que la grâce chrétienne est bien plus complexe. Elle a ses modalités différentes. La modalité du baptême, la modalité de l'Eucharistie, la modalité de pénitence, modalité. Donc elle est beaucoup plus complexe. En vue d'une fin plus profonde. Puisqu'il s'agit de vivre la béatitude du Fils bien-aimé. Alors nous avons une complexité plus grande du côté de la causalité efficiente et une simplification plus grande du côté de la causalité finale. Et ça se retrouve tout le temps, ça. On pourrait mettre ça un peu comme caractéristique de la grâce chrétienne. la grâce chrétienne a une complexité beaucoup plus grande en vue d'une finalité plus parfaite. S'il pouvait y avoir quelqu'un de justice originelle qui vivrait à côté de nous, il demanderait à entrer à Saint-Jean. Il trouverait qu'on est terriblement compliqué. Et il trouverait qu'on est beaucoup plus exigeant qu'en justice originelle. Ça, ce serait un guignol magnifique à faire. Le dialogue de quelqu'un qui vit de la justice originelle et puis l'autre, le chrétien. Et tout l'étonnement de l'homme de justice originelle par rapport au chrétien. Est-ce que vous êtes compliqué, chrétien? C'est si simple pour nous. La grâce et la nature, c'est en union parfaite. Et donc, il n'y a pas de complexité. Tandis que nous, vous êtes dans une lutte constante. Le chrétien lutte tout le temps. Et il lutte tellement que à tous les tournants, il y a un sacrement. La complexité de la grâce chrétienne, les sept sacrements. C'est, je crois que c'est très parlant, vous voyez, et ça nous fait saisir un peu ça. Parce que les sacrements font partie de la grâce chrétienne. Je ne peux pas séparer la grâce chrétienne des sacrements. Et donc, les sacrements apportent quelque chose à la grâce chrétienne, une modalité spéciale.
Une autre question, c'était, est-ce que la vie religieuse caractérise la grâce chrétienne par rapport à la grâce de justice originelle et pourquoi?
C'est sûr. Ça, c'est la simplicité et l'exigence de la grâce chrétienne. La grâce chrétienne, ceci, c'est ce que j'allais développer aujourd'hui. Mais on peut le voir maintenant, ça revient au même. Un point très important, et je serais peut-être, la grâce chrétienne va montrer d'une façon très particulière la grandeur de la maternité divine. La maternité divine, selon l'ordre de sagesse divine et en vue de cet ordre nouveau que nous donne la grâce chrétienne. Est-ce que la maternité divine aurait existé en justice originelle? Je n'en sais rien. Donc, la maternité divine est quand même le fruit propre de la grâce chrétienne. Le fruit propre de la grâce chrétienne est donc qui apporte à la grâce chrétienne une exigence nouvelle. Ce que je vous ai dit hier, à propos de la maternité divine de Marie, comprenez-le comme l'exigence première de la grâce chrétienne. Dieu, dans sa sagesse, a voulu que la disposition à la grâce chrétienne, ce soit la maternité divine de Marie. Et que la maternité divine de Marie est comme le fruit propre de la grâce chrétienne. C'est quand même très impressionnant, ça. Pour montrer la grandeur de la grâce chrétienne. Donc ceux qui prétendent que la grâce chrétienne, qu'il n'y a pas de grâce chrétienne, que saint Thomas n'a pas mis, oublie le mystère de la maternité divine de Marie. Ou ils disent que la maternité divine de Marie aurait existé même en Justice originelle, ce qui n'est pas dit du tout. Donc si la grâce chrétienne apparaît comme l'exigence première de la grâce chrétienne, c'est quand même ce qu'on doit regarder en premier lieu. Et ce qui, pour nous, nous montre que la grâce chrétienne nous manifeste, nous montre quelque chose de tout à fait propre, de tout à fait nouveau, de très caractéristique. La maternité divine de Marie. La maternité divine de Marie est, je crois, l'épanouissement le plus parfait de la grâce chrétienne. Et c'est contenu dans la grâce chrétienne. Ce qui dispose le mieux à la grâce chrétienne. Deuxième. La grâce chrétienne va appauvrir la paternité en augmentant la maternité. C'est assez étonnant, ça. Et c'est chose qu'on ne montre pas beaucoup non plus. Alors que je crois qu'on va le montrer. Que la grâce chrétienne, donc, donne à la maternité divine une grandeur unique, spéciale, le mystère de Marie le montre. Pas la peine d'insister. La grâce chrétienne va appauvrir la paternité. En grâce de justice originelle, le père était père et prêtre de sa famille. En grâce chrétienne, le père, selon la chair et le sang, n'est plus prêtre de sa famille. La grâce du sacerdoce est séparée de la paternité selon la chair et le sang. Donc, c'est un fameux appauvrissement de la paternité. Alors, vous voyez, cet équilibre nouveau. Maternité très exaltée, paternité appauvrie. Et on ne développe jamais ça. Tu vois, je n'ai jamais vu développer. Alors que je crois que c'est très éclairant. Et ça nous aide à comprendre que la grâce chrétienne appauvrit le Père. Et exalte la mère. Exalte la maternité spirituelle. C'est la maternité spirituelle qu'il exalte. C'est pas la maternité physique, mais la maternité spirituelle. Et la paternité selon la chair et le sang, la paternité humaine est distincte de la paternité spirituelle. La paternité spirituelle relève du sacerdoce. Communiquer donc au Père. Et elle est retirée à l'homme. Elle est retirée à la paternité de son agir et le sang. Donc à l'homme. Vous voyez ? Ça fait que l'équilibre père et mère est distinct dans la grâce de justice originelle et dans la grâce chrétienne. Vous avez tout de suite un équilibre différent, puisque la grâce surnaturelle, nouvelle, mais le point de vue surnaturel de la médiation de la paternité haute en dehors et distingue. Le prêtre sera toujours médiateur de grâce, mais il n'est pas lié, cette paternité-là n'est pas liée à la paternité selon la chair et le sang. Et la paternité selon la chair et le sang est séparée, distincte de la paternité bien sûr totale. Donc, ça augmente la maternité spirituelle, la grâce chrétienne augmente l'importance de la maternité spirituelle. Et cette grâce chrétienne demande à l'homme de vivre d'une façon plus pauvre. Et l'homme est amoureux. Pourquoi ça ? La finalité, c'est pour montrer combien Jésus exerce un rôle unique, celui qui donne, celui qui donne la grâce, celui qui donne la grâce surnaturelle. La grâce divine, la grâce surnaturelle, on la reçoit par plus la paternité sur la chair et le sang. Le métaxu est vraiment le choix du Père. Et le choix du Père, le choix spécial du Père. Indiquant justice. Maternité spirituelle et appauvrissement du sacerdoce. Et cela pour bien comprendre le rôle propre du Christ auprès de nous. Le rôle propre du Christ auprès de nous est un rôle de sauveur. Il nous donne et ce rôle propre du Christ auprès de nous, qui est un rôle de sauveur, est communiqué à l'homme par un instrument de Dieu. Il y a donc du côté de la volonté même du Christ une volonté que nous comprenions mieux combien c'est lui qui joue ce rôle de médiateur, et lui seul, et comme il le veut, médiateur de grâce. En justice originelle, il fait pas juste médiateur, Dieu, en communiquant l'âme, en créant l'âme, aurait créé une âme avec la grâce de Dieu, avec la grâce surnaturelle, tout de suite. Donc, au point de vue immédiaté de la cause efficiente, elle était beaucoup plus parfaite. Était plus immédiate en justice originelle. Mais le rôle de Dieu comme sauveur devenait plus immédiate. Et comme sauveur, il était plus profondément le rôle de Dieu sauveur dans ce rôle comme un autre était plus immédiat et plus fort. L'agneau de Dieu, le Christ offert comme médiateur, il n'y aurait pas eu cette offrande de l'humanité que le Christ a assumée sacrifice. Le sacrifice aurait existé, mais il aurait existé selon un mode divin et en même temps humain. le sacrifice est renforcé, devenant uniquement un mode divin. La croix. Il n'y a que le point de vue divin. Donc, vous voyez, c'est en ce sens-là qu'on peut dire que la grâce chrétienne appauvrit l'homme et enrichit la femme. C'est curieux, mais c'est comme ça, théologiquement. Parce que le rôle de Marie comme mère est accentué et le rôle du père comme père est diminué. Ce qui fait qu'au fond, c'est très souvent ce qu'on voit. Je cherchais toujours la raison. Et la raison est peut-être cela, que la vie chrétienne est ordinairement plus dure pour les hommes que pour les femmes. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Alors on donne des raisons psychologiques. Ça vaut rien du tout. La raison n'est pas psychologique. La raison, elle vient du gouvernement de Dieu. Étant donné la place de la maternité divine de Marie. Dans le mystère de l'incarnation, Joseph, en tant que père, il doit se taire. On lui réclame l'humilité. Et c'est Marie qui reçoit tout du Saint-Esprit directement. Et ceci, je dis, on l'affirme toujours pour la naissance de Jésus. Mais est-ce qu'on ne doit pas l'affirmer toujours pour la vie chrétienne? Est-ce qu'au fond, on ne touche pas? Je vais aussi en faisant attention, faire attention. Mais est-ce qu'on ne touche pas à une modalité du gouvernement divin qui a exalté par Marie la mère et a humilié le père? Joseph, Saint-Joseph. Il lui demande de vivre très intensément la béatitude des pauvres. Mais je pose ça comme question. On doit de temps en temps, au point de vue théologique, se poser des questions. Et voir si, au fond, c'est vrai, il y a vraiment là une piste qui est juste et qui, en quelque sorte, s'explique dans le gouvernement divin. Dieu exalte la mère, Dieu appauvrit le père dans la grâce chrétienne. Et ça explique alors que l'homme a beaucoup de peine d'être appauvri. Et parce qu'il a beaucoup de peine d'être appauvri, il cherche une manière ou une autre de l'être moins. Parce que c'est une réalité que vous verrez, ça, au point de vue apostolique. Vous la voyez au-dedans de vous-même. Ordinairement, ce que l'on voit, c'est que les petites moniales sont plus ferventes que les hommes religieux, donc leurs frères, et que les petites moniales sont faites pour maintenir la ferveur des religieux. C'est pas les religieux qui rendent les moniales plus ferventes. Ils doivent déjà faire attention de ne pas les scandaliser. Et c'est déjà bien. C'est de fait les moniales qui ordinairement maintiennent la ferveur. Plus fortes que les moines hommes. C'est un fait. Bon, c'est un fait qu'on constate et on se dit pourquoi. Alors on donne des explications du point de vue psychologique, que l'homme raisonne plus, que la femme est plus intuitive. Tout ça, c'est du patatès, ça c'est vrai. C'est des choses à côté. Ce n'est pas la raison théologique. La raison théologique, elle est beaucoup plus profonde. Et je crois qu'elle est là. Oui, c'est assez normal de voir ça. Et je dirais que c'est la première conséquence de la grâce chrétienne, à la différence de la grâce de Jésus originel. Pensez-y. Si vous avez des objections, notez vos objections, puisque nous cherchons ensemble à voir. C'est intéressant de remarquer ça. Ça, je crois que tout apôtre a cette expérience. Bon, il y a eu des essais. Alors, de réalisation. Alors, Dieu maintient l'autorité du côté de l'homme. Pas du père comme père, de l'homme. C'est un fait. Bon, la question qui se pose aujourd'hui constamment, pourquoi l'Église catholique est-elle si nette dans le fait qu'elle n'ordonne pas des femmes ? Vous avez tous entendu ce grief, hein ? Et on pose la question, c'est une question de temps, l'évolution, l'Église catholique arrivera à changer. C'est la position de certains, hein ? J'ai rencontré des prêtres qui me disaient ça, des théologiens qui disaient ça. Et intérieurement, je n'y crois pas du tout à cette évolution là-dessus. Je crois que la position de l'Église est nette, mais ce n'est pas du tout alors qu'on donne la raison, parce que Dieu, Jésus, a choisi ses apôtres. Alors, au fond, quand on prend ça, quand on prend uniquement la raison, Jésus a choisi ses apôtres, et on doit faire la même chose, j'aime pas beaucoup, parce que c'est une imitation qu'on fait sans comprendre. Alors, on doit comprendre. Est-ce que Dieu fait, il le fait toujours par sagesse, avec intelligence. Et j'avoue que je n'avais jamais précisé. c'est comme ça. Alors, il faut revenir à ça. Il faut voir maternité et Saint-Joseph. Voir que le sacerdoce est donné aux hommes. Que dans l'Église catholique, le sacerdoce réclame la virginité. Pour bien montrer que l'autorité sacerdotale du prêtre ne repose pas sur l'autorité naturelle de l'homme, et que c'est uniquement une volonté de Dieu. Alors on pourra chercher comment cette volonté de Dieu s'appuie, point de vue convenance, et que cette autorité, elle repose sur la sagesse divine. Et a-t-elle un fondement naturel ou n'y a-t-il pas de fondement naturel? C'est second, ça. Un fondement naturel, ce serait de voir que l'autorité, je ne dis pas la finalité, hein, l'autorité, c'est le point de vue de la cause efficiente. L'autorité est plus grande du côté de l'homme que du côté de la femme. Alors il y aurait cette raison-là. Est-ce que c'est la seule? C'est celle qu'on voit spontanément. Et on peut voir aussi ce fait que Dieu réclame à l'homme une très grande pauvreté. Et qu'il réclame à l'homme une très grande pauvreté pour qu'il puisse recevoir ce don. Et j'aimerais mieux ça comme raison. Parce que si Dieu réclame une pauvreté, c'est toujours pour quelque chose de plus. Et à ce point de vue-là, il faudrait justement comprendre que Dieu a appauvri Joseph. Joseph est le patriarche le plus pauvre. Pour pouvoir communiquer aux apôtres le sacerdoce du Christ. Et c'est, on touche là à tous ces problèmes qu'aujourd'hui les gens se posent. Et je crois que ce serait très important de bien comprendre cela, qu'il a appauvri l'homme pour lui donner quelque chose de nouveau. Oui. Il a appauvri l'homme du fait que la grâce sanctifiante était en justice originelle, une grâce qui pour l'homme se serait épanouie en une grâce sacerdotale. En terre chrétienne, il appauvrit l'homme à l'exemple de Joseph. L'homme n'a plus, en tant qu'homme, ce privilège du sacerdoce. Mais il l'a en tant qu'il est lui-même appauvri et qu'il reçoit alors de Dieu gratuitement ce privilège du sacerdoce. Ça me semblerait beaucoup plus quelque chose de vrai et conforme au gouvernement divin. Et ce sont des problèmes qui se posent aujourd'hui, hein, et qui reviennent tout le temps. Et on ne donne pas de solution. Il n'y a pas de solution à avoir. Il y a un éclaircissement, une lumière. Essayez de comprendre le pourquoi, dans la finalité du gouvernement divin. Ça m'intéresse. Découvrir cette finalité du gouvernement divin. Alors je crois... En découvrant cette finalité du gouvernement divin, on touche là à une raison véritablement objective, qui est très grande, et qui nous permet de découvrir cette première conséquence de la différence entre la justice originelle et la grâce chrétienne. Première conséquence, c'est justement par rapport au rôle de la mère, maternité divine de Marie, paternité. Et il y a là quelque chose qui est important, hein. Puisque ça fait partie de la structure même de l'Église. Et vous voyez, dans l'Église en Angleterre, on voit très bien qu'il y a une poussée très directe pour non seulement le sacerdoce féminin, mais même les évêques. Et on sent tous, c'est contraire à l'Église catholique, donc c'est faux, mais il faut donner la raison. Et si vous suivez ce raisonnement que je viens de vous donner, ça vous donne, je crois, une piste qui est claire. Parce que Dieu ne fait rien sans sagesse. Tout ce qu'il fait est souverainement sage. Tout ce qu'il fait dans l'Église, puisque c'est la chose la plus importante. L'Église, pour Dieu, est plus importante que la race humaine. La race humaine est pour l'Église. Et donc c'est dans l'Église où on doit retrouver, de la manière la plus profonde, la conduite de Dieu. Alors, je crois qu'il faut réfléchir là-dessus, parce que c'est une question brûlante aujourd'hui. Donc, parce que c'est une question brûlante, on doit essayer, pour éclairer, de trouver les vraies raisons de la conduite de Dieu. Parce qu'il y a une vraie raison dans la conduite de Dieu. Dieu ne fait jamais rien sans que ce soit souverainement sage.